Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Philippe Latombe. Vous êtes député MoDem de la Vendée. Vous êtes voisin, Philippe Latombe. Alors, vous êtes à l'Assemblée nationale, l'un de ces rares parlementaires, malheureusement, qui s'intéressent aux questions de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, des réseaux sociaux. Vous étiez exprimé là-dessus il y a quelques mois. Est-ce que c'est un manque de culture, finalement, technologique de la part de vos collègues parlementaires? Et puis, on peut pas le reprocher. Il faut que ça soit aussi une grande diversité, la représentation nationale, avec des médecins, des gens qui s'intéressent à tous les sujets. Ou est-ce parce que ça leur semble finalement pas très important, alors que ce sont des sujets qui engagent notre avenir?
Ouais, je pense que vous avez donné une partie des raisons. Effectivement, d'abord, on n'est pas très nombreux à venir du monde de l'informatique, ou en tout cas de la gestion de projets informatiques, et donc avec une appétence particulière sur ces sujets. Et puis c'est pas forcément les sujets qui sont abordés assez systématiquement en permanence dans nos circonscriptions. Et c'est parfois un peu loin de la vie de nos concitoyens. Ils le voient avec un peu de distance et d'abstraction. Et du coup, c'est pas forcément des sujets qui sont investis par beaucoup de nos collègues. Maintenant, on est une petite dizaine à l'Assemblée à s'en occuper, et on est à peu près autant au Sénat. Donc on est grosso modo une vingtaine de députés et sénateurs qui bossons sur ces sujets-là. On se connaît bien, on partage beaucoup de nos opinions ensemble. Donc on arrive à faire du travail intelligent ensemble, et c'est peut-être le plus essentiel.
L'intelligence artificielle amène presque un changement de civilisation, un changement radical dans des, j'allais dire, dans 60-70% peut-être des métiers de demain, dans l'éducation, dans l'approche politique, culturelle que l'on va avoir. À la limite, vu l'importance du sujet, c'est pire que le 11 septembre en matière de révolution.
Ah, c'est vraiment une révolution industrielle. Je crois que là, il faut que nos concitoyens comprennent que c'est une révolution industrielle. On a connu plusieurs révolutions industrielles dans le passé. Là, c'est une nouvelle, et c'est pas usurpé que de le dire. Et donc, je pense qu'il faut que nos concitoyens comprennent que cette révolution industrielle, elle va générer des craintes, et là, ils ont raison. Ça veut dire qu'il y a des postes qui vont supprimer, des métiers qui vont disparaître, mais comme il y avait des métiers qui disparaissaient avant l'automobile. Donc là-dessus, c'est pas... Il y aura de nouveaux métiers, il y aura de nouvelles façons de travailler, il y aura de nouvelles façons de fonctionner, il y aura une nouvelle architecture de la société, et donc il y aura de nouvelles opportunités. Et par contre, il faut absolument qu'on intègre cette révolution industrielle dans nos politiques publiques, à deux niveaux. La première, c'est que là, par exemple, on parle de retraite. On a parlé de travail, on va parler de travail. Il va falloir qu'on renoue avec le travail de façon différente, parce que l'intelligence artificielle va supprimer un certain nombre de postes et va donc demander des mobilités professionnelles, des changements de métier pour un certain nombre de nos concitoyens. Et ça, faudra qu'on l'intègre, parce que ça génère forcément des problèmes de cotisation, des problèmes de chômage, des problèmes de formation professionnelle. Et puis, il va falloir que l'État se modernise et qu'il intègre l'intelligence artificielle comme un outil pour lui, pour l'aider à faire les meilleurs choix. Et je peux vous donner un exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'intégrerait pas l'intelligence artificielle pour aider les CAF à délivrer plus vite les aides auxquelles nos concitoyens ont le droit? Parce qu'aujourd'hui, quand vous déposez un dossier à la CAF, il vous faut facilement 10 à 12 semaines avant de recevoir un courrier vous disant « Ah, vous avez le droit à une aide qui est celle-là. » Et le montant, c'est pas trouvé de combien il est. On va vous confirmer ça dans les semaines qui viennent. Et donc, il y a un délai, il y a une latence que l'intelligence artificielle permettrait de combler. Et ça, cette intelligence artificielle, elle peut être au service et au bénéfice de nos concitoyens. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas non plus que ce soit un état plateforme déshumanisé. Donc, il faudra qu'on remette des humains qui sont capacités de comprendre et de dire à l'intelligence artificielle, voilà comment il faut faire et voilà ce qu'il faut dire et aider nos concitoyens à faire.
Avec toujours une possibilité de faire recours à l'humain. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège du service technique quand votre connexion Internet est en panne. Vous appelez 10 fois votre opérateur et on vous répond, c'est un robot qui vous dit, mettez-vous sur 3W points pour avoir la solution. Et vous dites, oui, mais c'est en panne.
C'est exactement ce que j'essaie de dire. Je pense qu'il faut que nos concitoyens comprennent que l'intelligence artificielle, ça peut être une aide, mais c'est surtout que ça va permettre de libérer des personnes pour être au contact de nos concitoyens, pour humaniser la relation. Ce qu'on a oublié et ce que l'État a oublié avec les progrès technologiques, par exemple avec les cartes grises. Les cartes grises, c'est le bon exemple des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faudra pas faire avec l'intelligence artificielle. On a dématérialisé la carte grise. Et dès que vous avez un problème pour changer votre carte grise, il n'y a plus d'interlocuteur. Nulle part.
Et ça peut aussi permettre de lutter contre la fraude, l'intelligence artificielle, peut-être aussi. Puisque vous
évoquez. Ah, mais ça va servir à beaucoup, beaucoup de choses. Lutter contre la fraude, améliorer le versement des prestations, faire des choix d'accompagnement des personnes en disant, bah voilà, vous avez fait une modification de votre déclaration de revenus parce que vous avez moins de revenus ce mois-ci. Peut-être que vous avez le droit à des aides supplémentaires. On va vous baisser vos impôts. Peut-être que vous pouvez bénéficier d'aides complémentaires auprès des mairies. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Mais il faut qu'on le fasse de façon humaine. Et qu'on apprenne à nos concitoyens comment ça fonctionne et qu'ils ont des voies de recours qui sont des voies de recours humaines.
C'est le plus important parce que est-ce qu'on risque pas finalement de faire des États qui deviennent comme des entreprises? Déjà, on a reproché beaucoup à tous ces gouvernements et ça s'est amplifié de faire appel à les McKinsey, etc. Vous allez dire maintenant l'intelligence artificielle, on va dire où est l'humain derrière tout ça? C'est aussi votre rôle d'être vigilant.
Là, vous avez raison. Effectivement, l'État doit s'approprier elle-même et avoir les compétences pour l'intelligence artificielle. Si elle lâche ce secteur-là au secteur privé, à ce moment-là, on va avoir un fonctionnement de l'État qui sera un fonctionnement d'entreprise privée. Et c'est pas le souhait. Donc, il faut absolument que l'État acquiert des compétences dans l'intelligence artificielle, paye des ingénieurs qui sont capacités de faire des projets pour l'État pour le compte des concitoyens. Et donc ça, c'est très important. C'est quelque chose que l'État n'a pas intégré pour l'instant. Et c'était le sens de la question que j'ai posée au gouvernement la semaine dernière. C'est de dire, est-ce que vous avez intégré qu'il faut que ces compétences soient au sein de l'État et pas dans le secteur privé où vous allez systématiquement avoir recours à des cabinets externes? On a des gens fabuleux au sein de l'État. On a des fonctionnaires fabuleux. Il faut qu'on soit en capacité d'attirer les talents sur l'intelligence artificielle, les faire travailler avec les fonctionnaires qui sont fabuleux pour qu'on ait des projets qui soient des projets au service de nos concitoyens.
Alors Philippe Latombe, vous êtes député MoDem de Vendée. Un autre sujet toujours proche que je voulais aborder avec vous, la seconde partie, c'est justement les dérives de l'intelligence artificielle en matière de protection des données, mais surtout d'influence idéologique sur l'éducation, sur la manière de penser. L'intelligence artificielle n'est pas neutre.
Non, l'intelligence artificielle n'est pas neutre. L'intelligence artificielle reflète des biais. Ça reflète des biais, et c'est une des questions que j'ai posées aussi au gouvernement, mais indirectement, pas en séance publique, parce que j'ai pas la possibilité de le faire. Mais j'ai sollicité la ministre des solidarités en charge de tout ce qui est égalité homme-femme, lutte contre les discriminations, parce que je suis inquiet de l'utilisation d'intelligence artificielle et d'algorithmes d'intelligence artificielle qui soient directement ceux fabriqués par les Américains. Parce qu'ils ont un mode de pensée très différent du nôtre. Parce que ce sont des algorithmes qui sont construits par des ingénieurs plutôt blancs, plutôt hommes, et plutôt dans une quarantaine d'années. Et donc forcément, quand on dit à une machine « voilà comment elle doit apprendre », on reflète les biais. Et donc l'intelligence artificielle, ce n'est que ça. En fait, une intelligence artificielle, c'est bête, contrairement à ce que son nom dit. C'est simplement le reflet d'un algorithme à qui on a dit « tu vas apprendre de cette façon ». Et quand vous dites que vous faites apprendre de cette façon, c'est cette façon qui est la plus importante. Il y a des biais. Il peut y avoir des biais racistes, il peut y avoir des biais de genre, il peut y avoir des biais d'âge, il peut y avoir plein de biais.
Mais alors, est-ce que c'est pas finalement gênant de la même manière que vous avez dans les médias, et c'est la liberté? Vous pouvez avoir France Inter, qui est plutôt, on va dire, à la gauche de la gauche, et puis CNews, qui est plutôt à droite, et c'est la cohabitation dans la liberté. Il suffit simplement de le savoir, de zapper de l'un à l'autre, et vous avez des points de vue différents. Est-ce que ça va pas être ça, finalement, l'intelligence artificielle? On va passer de l'intelligence artificielle de gauche, un peu wokiste, à celle d'Elon Musk, qui sera peut-être le pendant de CNews ou de Fox News. Et puis c'est ça.
Si vous êtes, je partage avec vous, mais si vous êtes simplement dans de l'information, si vous êtes dans du service au public, si vous êtes dans du service public, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des biais, puisque vous devez être totalement agnostique. Vous n'avez pas à interférer et avoir des biais de genre, de sexe, d'âge, de couleur, de ce que vous voulez. Le service public se doit d'être neutre. Et donc, on a besoin de construire des intelligences artificielles avec notre façon de voir les choses. Les services publics aux États-Unis ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux que nous avons en France et en Europe. Donc, nous avons besoin de développer une filière qui soit une filière d'intelligence artificielle européenne avec nos valeurs et le respect de nos valeurs. Et notamment du respect des données personnelles. Ce qui est le vrai problème aujourd'hui, c'est que les intelligences artificielles que vous connaissez, ChatGPT, Midjourney, etc., prennent des données personnelles qui appartiennent à tout le monde. Elle n'a jamais demandé l'autorisation de le faire. Or, en Europe, on protège les données personnelles. C'est toute la décision de la CNIL italienne qui a, dans un premier temps, interdit le recours à ChatGPT et qui ensuite a réouvert le service sous condition de respect des données personnelles et donc, d'une certaine façon, de la vie privée des Italiens. Et ben, c'est la même chose que nous devons faire aujourd'hui en Europe de façon plus large. Et d'ailleurs, il y a un texte qui est en cours sur ce sujet-là au niveau européen. Malheureusement, on pensait qu'il allait arriver début 2023. Il arrivera, s'il arrive, plutôt fin 2023. Donc d'ici là, il va falloir qu'avec la CNIL, en France, on fasse un peu de droit souple, c'est-à-dire qu'on mette des règles, qu'on dise ce qui est autorisé, pas autorisé. Et on y travaille. Je fais partie de la CNIL, donc ça fait partie des sujets qu'on évoque chaque semaine en commission et pour lesquels on est en train de travailler.
Ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus. Je voudrais finir aussi là-dessus, Philippe Latombe. La question des données personnelles, vous faites très attention à cela, vous êtes vigilant. Et puis, dans le même temps, vous voyez bien que nos concitoyens, vos électeurs, vous-même, vous êtes en Vendée ou bien n'importe où, voilà, balancent sur les réseaux sociaux de plus en plus des infos qui sont de plus en plus qui seraient de l'ordre du confidentiel, où j'ai travaillé et mon job, et voilà ce que je fais, la pizza que j'ai mangée, je pars en vacances, je suis en vacances.
Oui, c'est un paradoxe. Nos concitoyens veulent absolument que l'État n'ait pas accès à toutes les données, mais ils en mettent beaucoup en source ouverte sur les réseaux sociaux. Et forcément, l'État se dit, mais si je faisais du contrôle fiscal ou du contrôle de droits sociaux à partir des réseaux sociaux, parce que ce sont des informations librement accessibles. C'est là où je pense qu'il y a une culture de la donnée personnelle, une culture de l'hygiène de la donnée personnelle qu'on doit pouvoir inculquer dès le plus jeune âge à nos enfants à l'école. Et je pense que là, c'est le vrai souci, il est là. C'est que dès l'école, il faut qu'on arrive à apprendre aux enfants ce que sont les données personnelles, apprendre ce qu'ils ont le droit de faire ou pas le droit de faire, ou en tout cas, qu'ils aient une appréhension du risque. Comme on le fait quand on leur demande de marcher, de courir, de sauter, voilà. On leur dit, le vide, essaie d'appréhender si le vide, il fait 30 cm, 1 mètre ou 3 mètres. Et il faut qu'on le fasse la même chose avec les données personnelles. Qu'est-ce qui est risqué, pas risqué? Et je pense que si on arrive à faire cette mue, au sein de l'éducation nationale. Et je mets pas en cause du tout les enseignants parce qu'ils font un super boulot, mais je pense qu'ils n'ont pas été suffisamment formés parce que là encore, l'administration centrale de l'éducation nationale n'a pas donné aux enseignants les outils pédagogiques et la formation pour pouvoir le faire.
Oui, donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc on ne peut pas faire le reproche à quelqu'un de ne pas enseigner ou pas maîtriser une matière qui, par définition, n'existait pas il y a quelques années.
Ouais. Non, mais l'éducation nationale est censée réfléchir en prospective. Les réseaux sociaux sont là depuis longtemps. Je pense qu'on aurait dû très clairement, et ça fait partie des choses que j'essaie de voir avec le ministère de l'éducation nationale, comment est-ce qu'on peut avoir des formations spécifiques pour les enseignants dès le primaire, des modules avec de la pédagogie, avec des outils spécialement faits pour les enfants de jeune âge.
Ouais, mais ça n'a pas marché avec les médias, monsieur Latombe. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il faut faire de la prospective sur les médias, éducation à l'information, et les résultats sont plutôt très biaisés, présentés de façon très idéologique. Hein. Voilà.
Oui, je sais bien.
Ça dépend des profs
aussi. C'est par exemple la question du collège. Est-ce que le téléphone portable doit être interdit au collège ou pas? La décision a été prise il y a quelques années de l'interdire purement et simplement. On voit que ça marche pas. Peut-être qu'il faut accompagner. Ils ont un outil dans la main. C'est l'outil de l'avenir. Peut-être qu'il faut leur apprendre à se servir de l'outil plutôt que simplement l'interdire en pensant que, abstraitement, ils vont comprendre que ça se passera mieux et différemment quand ils auront 16 ou 18 ans. C'est pas le cas. Et on voit bien que le cyberharcèlement passe par ces outils-là. Donc, on a vraiment une responsabilité aujourd'hui de changer le modèle, de changer notre façon de présenter le numérique à nos enfants. Et ça passe aussi par le fait que les parents doivent se rendre compte que le numérique, c'est une force, c'est un outil, mais ça peut être aussi un danger. Et ça, je pense que c'est pas encore suffisamment su. C'est pas le problème de l'exposition à l'écran, en fait, parce qu'on s'est focalisé là-dessus. C'est sur le contenu. Parce que des écrans, il y en a partout. Vous pouvez pas vous promener quelque part, à part j'ai la chance d'être dans une circonscription rurale, donc il y a des endroits où il y a pas d'écran. Quand on va se balader dans un champ, dans une forêt, il y a pas d'écran. Mais ces endroits où il y a pas d'écran en ville, ou en tout cas, il y en a plus. Eh ben, il faut qu'on apprenne à nos enfants à fonctionner avec les écrans de façon intelligente.
Ce qui compte, c'est le contenu.
C'est le contenu.
C'est aujourd'hui, comme pour la télévision. À une époque, on disait, faut pas être devant la télé toute la journée, mais si vous êtes devant France 5 ou devant Arte toute la journée, les conséquences seront moindres que si vous êtes devant MTV toute la journée.
Elles seront pas les mêmes, en tout cas.
C'est logique.
Ouais. Mais vous rendez compte que la télévision est devenue quelque chose qui est allumé du matin jusqu'au soir, finalement. Et c'est quelque chose qui est rentré dans la vie de nos concitoyens. Il faut maintenant qu'on apprenne à ce que effectivement les contenus soient les contenus les plus adaptés et qu'on apprenne à nos enfants à gérer les contenus. la pornographie commence par les contenus. Ça commence par les téléphones portables au collège. Enfin, donc, il faut qu'on ait une vision un peu différente des choses. Le numérique ne partira pas. C'est fini. L'intelligence artificielle arrive, elle ne partira pas. Il faut qu'on arrive à apprendre à fonctionner avec et apprendre à nos enfants à fonctionner avec. Il faut qu'ils maîtrisent la technologie et pas qu'ils en soient victimes ou qu'ils en soient simplement qu'ils la subissent.
Merci Philippe Latombe, vous êtes membre de la CNIL et vous êtes député MoDem de Vendée. Merci d'avoir abordé ce sujet, monsieur le député.
Merci à vous.